Alors, avant de continuer sur le sujet, c'est pour détendre l'atmosphère, on parle d'amateurisme, donc en fait, ça m'a donné l'idée, ça m'a fait penser un peu à la 7e compagnie, vous savez, avec Tassin, Pithiviers et le chef Chaudard. Donc, ça pourrait être, par exemple, Tassin, ça pourrait être Olivier Véran. Voilà,
ouais, c'est bien, bien.
Olivier Tassin Véran, et puis Jean Castex.
Olivier Tassin Véran, bah, tu me l'apprends, tu ne savais pas.
Et puis
Pithiviers.
Et puis Pithiviers, ce serait Jean Pithiviers. Jean Pithiviers Castex.
Hein. Macron, c'est l'adjudant chef Chaudard.
Ah oui, 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 évidemment. Allez.
Eglantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ?
Nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire.
Non, attendez mes ordres. Je rappelle dans 1 heure. Terminé.
Allô ? Pouvez-vous me dire si un poste de commandement s'est installé dans votre village ?
Vous avez besoin d'un pharmacien chaque fois que vous voulez communiquer avec un supérieur ? Ça m'étonne pas.
Mais non, j'avais une compagnie de transmission, mais je l'ai perdue. Allô ? Renoncule ! Ici Coquelicot ! Quels sont les ordres, en général ? Je vous ai, quels sont les ordres ?
Il faut faire attention, il faut être vigilant. Voilà, c'est une situation qui appelle plus de vigilance et que je suis au jour le jour.
Ah, bien au général ! Pardon ?
Je rouvre tout, etc. Ce ne serait pas responsable de ma part. Ce ne serait pas responsable de ma part.
Ah, je ne sais pas, mon général, je vais me renseigner. Non, mon général.
L'autre priorité, je le martèle, hein. L'école, l'éducation. L'école, l'éducation.
Bien, mon général. Je m'en occupe.
Voilà.
Oh, on vous confinez bien, chef.
Oui, chef, j'ai glissé, chef.
Bon, tout ça pour dire que voilà, ils se démènent comme ils peuvent pour nous sortir de cette panade. Mais en fait, la question aujourd'hui, c'est mais où sont passés, non pas la 7e compagnie, mais où sont passés les vaccins ? C'est ça la question. Et vous avez remarqué que on a un problème d'alimentation de vaccins. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette affaire ?
Oui. Ouais, mais on s'en fout, Thierry.
Ah ben non, on s'en fout pas des vaccins.
Si, on s'en fout, parce que le problème, il n'est pas là. Des vaccins, c'est comme les masques. T'en auras. Il faut juste être un peu patient.
Oui, non, mais plus vite on les aura, et plus vite l'immunité sera installée.
C'est rien du tout.
Pour l'instant, c'est comme les masques. Les vaccins, tu peux t'en passer pour l'instant.
Attendez, pas tous en même temps.
Si je puis m'exprimer, il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, on appelait en renfort toutes les couturières qui savaient faire des masques en tissu.
Oui.
Et aujourd'hui, qu'il y a des masques à revendre dans tous les supermarchés à 10 centimes pièce,
oui.
On nous raconte que le variant anglais passe à travers le tissu.
Pas celui-là.
Il faut arrêter les conneries.
Non, pas celui-là. Pas celui-là.
Hein, pas celui-là.
Pas celui-là. Non. Tu n'as pas suivi l'information. Non. Tu as le masque que tu achètes dans le commerce en tissu qui, lui, est bon. C'est celui que tu as fait toi chez toi qui n'est pas bon. Voilà. Il n'est pas bon pour le variant.
Tu vois, on fait de la mauvaise polémique. On fait de la mauvaise polémique. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. On critique en permanence. C'est ce qu'il dit Macron. Tout le monde critique. Il y a que des procureurs. Mais moi, ce que je voudrais, c'est des mecs qui disent aujourd'hui, on ouvre, par exemple, les restaurants dans telles conditions et on fait des propositions parce qu'il va falloir faire des propositions. Il faut arrêter de critiquer les décisions qui sont prises ou pas prises ou mal prises ou qui sont en retard ou qu'il y a des problèmes logistiques ou autres. Mais faisons des propositions pour vivre demain. Et alors là, c'est le grand vide.
Ouais, mais c'est impossible. Tout le monde. Je dis, Bruno, moi,
par exemple au gouvernement de dire on ouvre les restaurants sous telles conditions.
Oui, mais ça marche pas.
Mais faites-le.
Les stations de ski, il y a eu 14 protocoles sanitaires de fait, on nous ferme les stations. Il y a un célèbre restaurateur de gaz que tout le monde connaît, qui a fait les meutes sur la place de la cathédrale. Il a fait tout ce qu'il a pu, il a rassemblé gens qu'on voulait pas avec nous. C'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait casser les pattes. On lui a dit, mais non, tu fermes ta gueule, sinon tu vas te faire allumer, quoi. Donc, je veux dire, on peut faire la révolution, mais qu'est-ce qu'on va avancer ?
Mais il faut faire des propositions pour sortir de cette crise. Mais on sait que le problème...
On n'est pas entendu.
Le problème des remontées mécaniques, c'est pas que tu vas attraper le virus, c'est la concentration et le déplacement de la population.
C'est le brassage.
À la limite, faisons la croix sur le brassage. Mais là, au quotidien, nous, les gars, pensez, ce qu'on a besoin, c'est d'aller au restaurant, c'est de temps en temps aller à une soirée au Quattro.
C'est le contraire. Hein,
c'est de réouvrir un petit peu le théâtre. Faisons des propositions pour essayer de revivre. Parce que ce qu'on ne dit jamais, on parle des entreprises, on parle de ça, mais il y a des gens, des vieux, qui meurent plus de solitude que du Covid. Il y a des jeunes qui commencent à prendre des cachetons parce qu'ils pètent les plombs, parce qu'ils sont en prépa, qu'ils sont en fac et tout, qu'ils n'ont plus de vie sociale. Donc, travaillons là-dessus. Je sais, on est dans une guerre, comme l'a dit Macron. Une guerre, ça fait toujours des dégâts. Peut-être qu'il faut faire une année blanche sur les stations de ski, mais moi, ce que je voudrais, j'en ai marre de voir des gens du BTP qui mangent dans les camions au froid et qui n'ont pas les restaurants ouverts. J'en ai marre de pas pouvoir assister un soir à un film, même si je dois prendre de la distanciation sociale. J'en ai marre de pas aller de temps en temps au restaurant, même si je te dis il faut respecter de la distanciation. J'en ai marre de tout ça. Mais commençons par là pour relancer.
Moi, président. Ouais. Tu es en train de faire un moi président. Moi président.
Thierry, si on commence à parler des dispositions à prendre, ouais. Par exemple pour les routiers, ils ont des restaurants sur des axes qui sont ouverts.
Ouais.
Ils peuvent manger, ils peuvent se doucher. Il y a des distanciations, enfin des précautions qui sont prises. Pourquoi pas dans les restaurants, je veux dire. Aujourd'hui, ça a été les premiers à s'adapter. Donc, il faut leur permettre de se réouvrir, même avec la moitié ou le tiers de table. J'en sais rien, mais il faut remettre la vie en route.
Voilà. Exactement.
Alors qu'on faisait justement un comeback il y a un an en arrière, ce problème des routiers était un vrai problème prégnant, puisqu'en fait, ils s'arrêtaient sur les aires d'autoroute, ils ne pouvaient même pas prendre une autre chaîne du tout. Donc, ça veut dire que les choses en un an ont quand même évolué.
Ouais.
Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Il faut effectivement retrouver d'autres solutions.
Aujourd'hui, tu peux réouvrir le restaurant pour si tu conventionnes avec les gens de certaines entreprises, ils se retrouvent par table, etc. Il y a des possibilités, mais c'est long. Un restaurateur doit demander, je crois que c'est à peu près de l'ordre d'un mois d'avoir l'agrément à la préfecture pour faire manger des gens du BTP.
Mais, je suis désolé.
Mais voilà.
Il faut laisser la responsabilité au restaurateur d'ouvrir, d'avoir un cahier des charges, de pouvoir s'adapter, de faire ce qu'il faut. Bon, oui, éventuellement, contrôle s'il faut. Mais il faut leur redonner la main pour qu'ils puissent vivre et qu'ils puissent recommencer. Et puis, pareil pour tout un chacun. Enfin, je veux dire, il faut remettre un peu le bon sens au milieu du débat.
Après, il y a quand même un gros dilemme. Le dilemme, c'est de savoir, je reste fermé, je touche mes aides, ou alors j'ouvre et je prends le risque de faire des choses.
Bon, on voit bien,
il y a des gens qui ont essayé de faire emporter à 18h, ils se sont fait clouer le bec, donc on ne fait plus parce que c'est plus raisonnable. Mmh. On a des hôtels, je vois, qui font du room service, continue d'accueillir les gens, et puis il y en a qui ne veulent pas faire, il y en a qui ne veulent pas apporter à manger dans les chambres, et qui disent on ferme carrément l'établissement.
Je suis d'accord, mais Michel, tu crois que ça va durer, la morphine ?
Non, ça ne va pas pouvoir durer.
La morphine et l'assistanat,
je suis d'accord avec toi, voilà. Ça ne va pas pouvoir durer, ça c'est cher. Hein.
C'est pour ça qu'il faut inventer un autre système il faut libérer l'économie et inventer quelque chose. Arrêter de critiquer les mesures et essayons d'inventer quelque chose. Quoi.
On est d'accord qu'on est plein dans un système, au contraire, on a beau faire des propositions.
Il y a raison, si tu veux appliquer un peu de bon sens, aujourd'hui tu ne peux pas. Hein.
Quand je disais qu'on était sous cloche,
on est mis sous cloche.
C'est bien un peu le problème.
On est carrément.
Je donne la parole à Jeannot.
Notre salut viendra avec la généralisation des vaccinations. Et c'est là où il faut porter notre effort maximum de manière à être immunisé.
Tu as raison.
Et il n'y a que ça, il n'y a que le salut viendra par là.
Tu as raison, le problème c'est que là je disais où sont les vaccins, parce que bon, nous on a je crois 1 million de vaccins qui devraient arriver, enfin qui sont normalement arrivés pour le mois de janvier, et on se rend compte que bon, bah il y a des centres qui sont obligés de fermer parce qu'ils ne sont plus alimentés. Alors, le problème c'est que Pfizer a merdé complet, c'est-à-dire que on peut parler d'amateurisme au niveau du gouvernement, on peut parler aussi d'amateurisme au niveau du laboratoire, parce qu'en fait ils ont fermé carrément une usine en Belgique pour pouvoir la mettre aux normes, enfin pour pouvoir accélérer et augmenter la production, de manière, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir du mal. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir des vaccins, c'est le monde entier qui veut des vaccins. Et donc, les pharmaciens ont annoncé la semaine dernière la possibilité de faire 500 000 par jour, 500 000 vaccinations par jour.
En passant par les pharmaciens.
Voilà, en passant par les pharmaciens. Le problème, c'est que pour faire 500 000 par jour, il faut les vaccins. Et le problème, c'est que 500 000, on les a pas, puisqu'on a une livraison de 340 000 en ce moment par semaine.
Ça va se tasser. L'histoire démontre que la mise en place industrielle d'un tel projet est énorme et requiert effectivement des restrictions à un moment ou à un autre, parce qu'il faut déplacer des machines-outils. Enfin, il y a tout un tas de choses qui nous dépassent et qui sont à l'œuvre au niveau des industriels, ouais. ça va partir plein pot et vous verrez que d'ici 2-3 mois, des vaccins, on en aura tant qu'on voudra.
Ouais, mais en attendant, le problème, il est simple, hein, c'est-à-dire qu'il faut au moins quoi, 30 millions de personnes, 40 millions de vaccinés en France
pour l'immunité collective. On est 66 millions.
Si on accélère, on peut le faire en 4 mois. On peut le faire en 4 mois. Il faut vraiment accélérer.
En espérant que ce soit efficace.
Oui. Verra a dit hier soir que fin août, tout le monde serait vacciné.
Ben oui, c'est possible.
Il a prononcé dans son discours inaugural le fait que 100 millions d'Américains soient vaccinés sous 100 jours.
100 millions sous 100 jours.
Tout à fait, donc ce qui est un truc absolument...
1 million par jour.
Oui, absolument. Mais ils en sont capables, je veux dire par là que c'est comme ça que quand ces grandes démocraties seront débarrassées, y compris les Anglais, ce problème-là, que l'épidémie va reculer, là on y verra plus clair, on pourra recommencer à faire des échanges sereins, comme on a fait par le passé.
Et il y a même Amazon qui s'est proposé, d'ailleurs, aux États-Unis pour donner un coup de main pour la livraison, justement, des vaccins.
Avec des vaccins à moins 60 degrés, ouais. Chez Amazon, ouais. Dans des glaciaires, quoi.
Je te dis ce qu'ils ont proposé. Après, ouais, est-ce qu'ils pourront le faire? J'en sais rien, mais ils l'ont proposé. Voilà.
Peut-être que pas tous les vaccins devront être conservés à moins 60.
Exactement. Les prochains
laboratoires sur le long terme.
Attention.
D'autres laboratoires qui sont en cours de validation aussi, au niveau de leur spécificité, on va dire, en matière de vaccins, qui vont rentrer en concurrence avec Pfizer.
Tout à fait.
C'est le premier, ça fait rien. Après, on va avoir une offre qui va être diversifiée, y compris une offre franco-française, qui ne tardera pas.
Et n'oublions pas que les prochains vaccins qui vont arriver pourront être conservés beaucoup moins... on est quand même à des températures hallucinantes, moins 60. Ils pourront être conservés plus facilement. Et donc, au niveau de la gestion, ce sera beaucoup plus souple.
Et comme le vaccin sera produit à Sanofi, et Sisteron, nous on sera sous le robinet, je vais te dire, on va être inondé. Alors là,
En attendant, cette semaine, Sanofi était en grève, hein, soit dit en passant. Voilà.
C'est normal, il y a du boulot.
Ils ont une stratégie de groupe qui est incompréhensible.
Sanofi.
Oui. Je pense que c'est le mal français aujourd'hui. On est en train de régresser.
L'investissement américain à outrance, et ils avaient annoncé quand même Sanofi que les premiers vaccins qui sortiraient partiraient en Amérique.
Oui, je me souviens de ça. Tout à fait.
Il y a un peu de business aussi.
Est-ce que vous craignez, parce qu'on en parle, Michel, tu crains un troisième reconfinement pour le mois prochain? Approche-toi.
Je le crains vraiment.
Ah oui, vraiment.
C'est annoncé, hein, plus ou moins.
Parce que là, mine de rien, on critique le gouvernement, mais je crois qu'on est un des seuls pays, la France, à ne pas être confiné. Les Allemands sont reconfinés, les Anglais sont reconfinés, en Italie, ça reconfine. Donc, enfin, voilà, et si jamais on réussit à tenir, avec un moindre mal, on va dire, le couvre-feu, est-ce que ça serait quand même une meilleure solution?
La tendance, c'est pas bien. Avec la préfète, hier soir, en cellule économique, elle nous a dit... que le couvre-feu depuis le 2 janvier, donc qui a été avancé chez nous par rapport aux autres, aujourd'hui on a un plateau, ça stabilise la situation, voire elle nous a indiqué que ça avait un petit peu baissé.
Donc ça pourrait porter ses fruits.
Ça pourrait porter ses fruits, mais on n'en a pas l'assurance encore.
On n'est pas sûr.
Non. Hier soir aussi, aux informations, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, Estrosi appelait à un confinement total sur le département des Alpes-Maritimes.
Et notamment sur Marseille.
Non, mais d'abord sur Nice, et puis...
Et aujourd'hui, les
Alpes-Maritimes sont rouge-violacées. Hein, c'est vraiment... ça pose problème et ils débordent et les hôpitaux sont saturés.
Mais c'est un département de vieux, les Alpes-Maritimes. Il y a beaucoup de retraités là-bas.
Menton en particulier.
Exactement.
Non, mais il y a quand même...
Il y a beaucoup de mecs du FN là-bas, autant ils ont tous scanné.
Il y a quand même... Nice et Marseille sont des villes qui sont inscrites dans un plan de contrôle de leurs eaux usées. Et apparemment, on détecte l'évolution du virus en amont des tests PCR.
C'est très bien ça.
Et c'est pour ça que Estrosi, pardon.
Tiens, rêve du sang autour.
Non, pas du tout.
Tu kiffes.
C'est le pastis de notre ami Michel qui.
Ah, il fait mal le pastis du Kéra, je te le dis.
Non, je sais plus ce que je voulais dire.
Oh, c'était Sarkozy 2020.
Je pense néanmoins que Le gouvernement n'est pas exempt de reproches sur la forme parce que trop de communication et surtout un président de la République qui descend dans l'arène alors que au terme des institutions de la Ve République, le président il doit être en dessus.
Ouais, mais et, bon, ça fait un bout de temps que le président n'est plus au-dessus. Hein.
Il doit avoir une parole qui est rare et dramatique suivant les périodes, les situations comme était de Gaulle d'ailleurs.
Depuis Sarkozy, je pense qu'on est passé à une autre présidence, que ce soit Sarkozy ou même Hollande, un peu moins. Et aujourd'hui Macron, de toute façon, dévalué, c'est sûr que c'est plus pareil.
Alors qu'un président comme Mitterrand, quoi qu'on en dise, il avait des formules extraordinaires comme, par exemple, je ne vous abandonnerai pas.
Ouais. Enfin, moi, je ne m'avancerai pas sur Mitterrand.
Ça lui coûtait pas cher. Hein.
Je ne m'avancerai pas sur Mitterrand.
Ça pas, il est parti, hein, il aurait dû vivre. Hein.
Pardon?
Il est parti, Mitterrand.
Ah bah oui.
Je ne t'abandonnerai pas. Ah oui, après, c'est par rapport à son vieillage, respect à lui.
C'est pour dire qu'il y avait un autre style. Maintenant, dans lui, le bonhomme est détestable, mais sur le style, c'était un président. Voilà, un vrai.
Ouais, on va changer de sujet. On va sauter du coq à l'âne. On va aller faire un tour aux États-Unis parce que, bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, on a un nouveau président, officiellement, depuis, c'était hier, je crois. Hein,
fin de la tromperie.
Voilà. Sûr, tout à fait, oui.
Bon, comment?
Fin de la tromperie, c'est ça?
Ah, de la tromperie qui pourrait effectivement se rapprocher de tromperie. C'est pas mal, bien vu. Bah justement, qu'est-ce qui va rester, selon vous, de la présidence Trump de ces 4 années passées?
Un mur de 20
km. J'adore la tête des mauvais souvenirs.
Un mur de 20 km au Mexique.
C'est, oui,
par exemple. Il a annoncé beaucoup plus long que ça.
Oui.
Dans l'histoire le jugera moins sévèrement que vous pouvez le faire... sur l'instant.
Ouais.
On va dire que sur le plan économique, il a quand même développé une dynamique
protectionnisme, oui.
Qui a permis quand même une réduction très notable du chômage et puis un dynamisme économique qui se ressent dans toutes les entreprises américaines, bien sûr. America Great Again, donc c'est vrai qu'il a partiellement réussi son pari. Maintenant, en trop s'appuyant sur les masses populaires et surtout, comme on le disait tout à l'heure, extrémistes, bon, il s'est planté définitivement. Mais par contre, il a l'intention, je pense, de recréer un mouvement sur sa propre personne. Il n'est pas impossible de le voir revenir d'ici 2 ou 3 ans comme candidat, si évidemment...
Si d'ici là, voilà. Son problème d'impeachment... ne va pas au bout. Alors est-ce qu'ils vont laisser tomber
entre l'impeachment qui est une sanction purement juridique et puis ouais. Toutes les sanctions pénales qui peuvent s'attacher à cette sanction principale mais qui sont complètement indépendantes sur le plan du droit américain. Alors il est clair que moi je craindrais plutôt les problèmes suite pénale de certaines malversations plutôt que l'impeachment qui jusqu'à présent n'a pas réussi.
Oui. Très rapidement,
Al Capone
Jeannot.
Est tombé pour des problèmes fiscaux.
Hein. Oui, tout à fait, absolument. Très rapidement, je t'ai demandé de jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Je réponds parce aussi, que, en très fait, rapidement aussi, parce
en fait,
qu'il y a 3 pages.
En fait, non, je te demande de faire un truc rapide, et toi tu me fais 3 pages.
D'accord. L'apéro avec
ce que je voulais Michel. Dire, c'est que vous savez que Trump a brillé par son absence lors de l'investiture de Joe Biden, et c'est quand même très étonnant, parce que c'est arrivé... Alors j'ai jeté un petit coup d'œil.
Trois fois
vraiment. Après il y a eu d'autres cas, mais 3 fois où vraiment les présidents sortants n'ont pas voulu être là et dont je crois un père et un fils.
John Adams et Quincy Adams. Oui.
Voilà.
Ouais. En 1801 et 1829. Et le dernier c'est Andrew Johnson en 1869. Donc parce qu'il n'était pas.
Et pourquoi lui?
Parce que c'est toujours pareil. C'est des gens qui membres du parti démocrate et 16e vice-président des États-Unis. Il a été élu en 1864 comme colistier d'Abraham Lincoln. Johnson succède à ce dernier après son assassinat en 1865. Président de la reconstruction après la fin de la terrible guerre de sécession, Johnson est battu aux élections de 1868 d'un cheveu par le général Ulysses Grant.
Et il n'a pas à digérer.
Non.
Il l'a pas digéré, donc il n'a pas, pas voulu venir. Mais enfin, c'est quand même très étonnant de voir Trump bouder et ne pas vouloir participer à...
D'ailleurs, jusqu'à une date récente, il ne reconnaissait pas sa défaite.
Oui.
Donc,
oui.
C'est lui qui a foutu le bordel et qui a permis l'invasion du Capitole, on va dire, qui est un fait divers extrêmement douloureux.
C'est ce que je retiens, moi. Le pire message que je retiens du quinquennat de Trump, c'est ça, justement. C'est que j'ai le sentiment que la grande... Amérique, les grands États-Unis qui sont pour moi une grande démocratie, a été complètement bafouée par un président qui a été autoritaire, qui a fait n'importe quoi, qui a. Enfin, moi, c'est ce qui me choque le plus. Parce que, comme disait Patrick, son son bilan économique n'est pas si mauvais. Et on en avait parlé, je me rappelle, avec Rémi Audou, on en avait parlé de ça. Quand tu fais du protectionnisme, tu as des résultats à court terme qui sont très bons, évidemment. Il a relancé l'économie, il y a moins de chômeurs et tout, parce qu'il a refermé son pays sur lui-même. Mais au niveau de la démocratie et de la folie, je dirais, de la folie humaine.
Il a divisé le pays en deux, complet.
Il a complètement clivé les gens. Et puis, tu avais quand même le sentiment de quelqu'un un peu irresponsable. Même s'il a retiré ses troupes de certains conflits, tu avais l'impression que sur un coup de tête, il pouvait faire n'importe quoi avec n'importe quel objet, notamment avec le bouton.
Non, mais il a ouvert une brèche qui est énorme et à laquelle il va falloir s'atteler à restaurer. Je veux dire, avec les... toutes ces personnes hallucinantes qui sont parties à l'assaut du Capitole. Et il a fait sortir de leur trou
le pire de
l'humanité.
Le pire de ce qui existe en ce moment, notamment aux États-Unis.
Ouais. Le pire de tout, c'est qu'il a mis, il a cessé de crier que l'élection a été truquée. Et ça, c'est quand même grave parce que tout le monde, enfin, je crois pas qu'il y ait eu de malversation dans l'élection américaine. Ça, de le dire comme il a dit, c'est quand même très grave pour une démocratie comme les États-Unis.
Et il y en a encore cette semaine qui sont persuadés que...
Quand on leur a volé l'élection.
Exactement. Et même en France, il y en a une.
Ah oui.
Tenez, écoutez.
En tout cas, il y a eu des fraudes, c'est manifeste. Est-ce qu'elles ont été suffisantes pour remettre en cause l'élection? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire et j'en sais rien. En revanche,
Vous dites j'en sais rien.
J'en sais rien. Non, j'en sais rien.
Vous ne savez pas si Joe Biden a été élu légalement.
Il y a un débat extrêmement violent aujourd'hui aux États-Unis avec un président sortant qui reste encore incroyablement soutenu. Enfin, je veux dire,
toutes les décisions de justice. Tous les recours en justice.
Oui, mais tout à fait.
Vous avez
tout à fait raison.
Voilà, vous avez tout à fait raison, mais n'empêche que quand même, on se pose des questions. C'était Marion, vous l'avez reconnu.
Les votes électroniques qui sont un sujet à caution, voilà. On n'arrive pas vraiment à certifier qu'ils sont sincères.
Oui, mais enfin, on sait très bien qu'à chaque élection aux États-Unis, il y a des petites magouilles, des petites magouilles. Alors, mais si on le sait qu'à chaque fois, il y en a.
Très rapidement pour... on va dire étouffé.
C'est un grand classique.
Sur le plan de l'anecdote, il y a quand même 4 présidents des États-Unis qui ont été assassinés quand même.
Ah oui.
Depuis 1776.
C'était pour ça qu'ils n'avaient pas la cérémonie de passation alors.
Non, mais c'est pas ça. C'est ce que je veux dire. c'est une démocratie qui évolue, évidemment, très souvent à coup d'expérience néfaste ou négative. C'est clair que c'est quand même une démocratie qui se tient, puisque aujourd'hui tout le monde est au travail, tout le monde a accepté que Joe Biden soit le président, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose.
Oui, en espérant qu'on passe à autre chose.
Y compris une grande partie des républicains de plus en plus nombreux.
Je ne sais pas si tu as fait attention, Thierry, une des dernières grâces présidentielles de Trump, c'est la grâce de Steve Bannon, le nec plus ultra de l'ultra connerie, quoi. qui est venu faire des bisous à Mario
et à Marine.
Et à Tata. Donc, je veux dire, ça lance pas des signaux très positifs, tout ça.
Chose intéressante aussi, je pense que Gerald Ford, qui était un garçon qui a été décrié aussi comme président des États-Unis, parce que je pense que son prédécesseur disait qu'il était incapable de marcher et de penser à la fois. Donc il fallait qu'il s'arrête pour penser, parce que sinon, en marchant, il ne pouvait pas.
Il se cassait la gueule.
Eh bien, Gerald Ford a été, on va dire, président par accro, puisque c'était même pas un vice-président. Mais du fait que Spiro Agnew, qui était le vice-président en titre de Nixon, a démissionné avant Nixon d'ailleurs, mais il s'est retrouvé comme vice-président et ensuite il a été président en lieu et place de Nixon. Donc c'est clair que ça a été le cas typique d'un gars qui n'était pas destiné à être président et qu'il est devenu par le plus grand des hasards.
Comme Trump.
Et toi, Michel, Trump, t'en garderas un souvenir impérissable ou alors
Je crois que dans quelques moments, on l'aura oublié, tout simplement. Mais comme dit si bien Jean, il risque de revenir à la charge dans 3 ans. Il faut s'y attendre.
À suivre.
Et on disait que Ford se conduisait bien à l'époque.
Que
Ford. On a dit Ford.
Ouais, Ford conduisait
du
bien.
Coup, mine de rien, Joe a déjà passé quelques petits dossiers en revue. Retour donc des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Retour dans l'OMS. Arrêt de la construction du mur. Hein, tu le disais tout à l'heure, Michel, avec le Mexique. Alors après, il a prolongé aussi la pause de remboursement de prêts étudiants pour les étudiants aux États-Unis. Vous savez que là-bas, ça coûte très cher les études, puisqu'ils doivent se les payer eux-mêmes jusqu'au donc 30 septembre. Il met fin aussi à l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans, parce que ça on l'avait oublié, mais on n'avait plus le droit de débarquer aux États-Unis si on est d'un pays majoritairement musulman. Il va revoir également les programmes de protection sociale, dont le programme d'assurance maladie, l'assurance chômage, etc. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui revient. D'ailleurs, l'élection de Biden a été saluée notamment par beaucoup de pays européens, contents de voir que on va peut-être pouvoir retrouver des relations, j'allais dire, apaisées, hein, en quelque sorte.
C'est vrai que on va dire que Trump a été très souvent quelqu'un de très difficile à serrer parce qu'il prêchait le faux pour savoir le vrai, ou au contraire, il était très conciliant, et puis d'un seul coup très clivant aussi. Donc c'est clair que ça a été une présidence difficile pour beaucoup d'autres nations, en particulier les Allemands, les Français aussi, parce que Macron a bien essayé de se donner les bonnes grâces de Trump, mais ça n'a pas marché longtemps.
Et bon, on est quand même très impacté par sa politique protectionniste au niveau des frontières et des droits d'entrée.
En particulier au niveau des fromages, des vins et autres choses.
Et des alcools forts. Sur la viande américaine.
Et des alcools forts. Voilà. Le cognac et tout ça. Le champagne. Hein? Bon. Bon. Et ben, c'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter pour ce numéro du Coq à l'âne. C'était le numéro 669, année érotique. Patrick Faure, Bruno André, Jean Cointe.
Ça finit en tête à queue, ton truc.
Merci. Michel Garcin, président de l'UPE 05. Merci, mon petit Michel.
Merci à vous de votre accueil.
Et à une prochaine fois, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le numéro 670. À très bientôt.